franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, quand le poisson zèbre rencontre la technique de modification de l'ADN CRISPR-Cas9 avec Jean-Stéphane Joly.
On peut obtenir des OGM avec un CRISPR-Cas9. Il n'y a pas de. On peut très bien introduire des gènes aussi avec le CRISPR-Cas9. En revanche, qu'on peut faire, c'est des coupures extrêmement ciblées, extrêmement précises.
Qu'est-ce qu'on coupe?
Qui génèrent. Alors, on coupe l'ADN. C'est des molécules extraordinaires. Le génome humain, par exemple, en culture de cellules, 3 milliards de paires de bases. Et on coupe quasi parfaitement au bon endroit. Donc, c'est des molécules. Qui sont apparus de recherches sur les bactéries qui infectaient les plantes. Et c'est encore une autre exploration. Et là, on va générer une mutation, c'est-à-dire un petit changement de l'ADN qu'on appelle d'une seule paire de bases, extrêmement précis. Et ça va reproduire des mutations qui arrivent tous les jours dans le poisson, tous les jours chez nous, qui sont souvent, bien souvent naturelles. Donc, on va pouvoir faire ici des choses qui ne sont pas, au sensu stricto, des OGM dans le sens introduction d'un gène exogène. On va pouvoir faire des choses extrêmement propres, précises.
C'est ça, c'est la précision vraiment qui va caractériser cette méthode pour aller vraiment là où on a envie d'extraire un gène.
Par rapport à avant, on balançait de l'ADN comme ça, en injectant avec une pipette dans l'œuf de poisson, par exemple. On savait absolument pas où l'ADN allait. Là, on coupe assez précisément à un endroit. Et donc, moi, je défends beaucoup l'idée que dans ce cas-là, ce n'est pas un OGM et qu'il faut qu'on définisse auprès du grand public qui nous écoute aujourd'hui beaucoup mieux ces choses-là pour qu'ils aient moins peur et qu'ils comprennent bien l'intérêt de ces choses-là.
Alors ces méthodes-là, on est d'accord, elles sont applicables au monde animal comme au monde végétal.
Voilà,
avec
tout à
CRISPR,
fait.
On peut agir sur tout ce qu'on veut quasiment.
Voilà. Disons que dans le temps, le monde végétal, si on en vient là, on faisait des irradiations UV, des choses extrêmement lourdes ou bien les OGM qu'on n'aime pas des années 80. Mais là encore, on va pouvoir faire de façon beaucoup moins chère et beaucoup plus précise des choses plus intéressantes. Il faut que le grand public en prenne conscience plutôt que de continuer à parfois à rejeter en masse.
Mardi, les mathématiciens tournent-ils le dos au réel avec Hugo Duminil-Copin et Claire Voisin?
Je pense que de façon générale, l'extraction du réel, c'est ce qui fait avancer les sciences en général, pas spécialement les mathématiques. Je pense qu'on a l'impression qu'en mathématiques, c'est plus fort que dans d'autres disciplines. J'en suis pas entièrement convaincu, dans le sens que notre discipline de mathématiques consiste, d'un certain point de vue, à rendre intelligibles des choses qu'on pense être complètement hors du réel, qui n'ont de sens, qui n'ont pas de sens dans la réalité de tous les jours. Mais en fait, c'est notre travail, c'est de transformer ces choses-là, de les comprendre suffisamment bien pour qu'elles, finalement, puissent être utilisées dans le réel. Parce que c'est ce qui se passe, au fond. Les mathématiques du 18e siècle ont été utilisées dans le 19e en physique, ont été utilisées dans le 20e pour l'ingénierie. C'est l'histoire des sciences en général, ça se nourrit comme ça. Donc j'ai pas l'impression... faut dire, je travaille quand même dans un domaine, j'étudie comment la matière se transforme. Donc, il y a quelque chose
très concret. Absolument.
Point de vue. Mais je l'étudie exactement, comme disait Claire, en m'extrayant de ce que ferait un physicien ou un ingénieur, en utilisant des outils qui sont pas forcément des outils de la vie de tous les jours, des outils plus abstraits, ce que les gens appelleraient exactement cette abstraction mathématique. Mais finalement, pour retomber sur mes pieds, pour retomber sur l'étude de choses concrètes.
Donc il y a cet aller-retour permanent, au fond, entre la réalité, l'abstraction,
Claire Voisin. C'est que, plutôt que de tourner le dos au réel, nous rendons le réel encore plus réel en repérant de la structure, en voyant qu'il y a de la structure, là où une simple observation, le nez sur la chose, la simple observation des contingences, nous ferait simplement rester en situation passive. Et le mathématicien aime voir les séries logiques, et derrière ce qu'on appelle séries logiques, en fait, c'est les phénomènes de structure. Et ces phénomènes de structure, ils ont aussi la propriété de rendre les choses plus réelles, en tout cas
Donc vous nous éclairez, vous nous permettez de voir des choses que nous ne voyons pas, et que vous, du coup, ramenez vers le réel ensuite.
Moi, je pense que ces objets, qu'ils soient plus ou moins extraits de la réalité physique ou non, sont d'autant plus réels qu'ils ont plus de structure, et donc ils sont plus réels dans notre esprit. Mais finalement, on ne va pas dériver sur une discussion du genre qu'est-ce que la réalité, c'est très très dangereux, comme ce que c'est. Je pense que dire que les mathématiciens tournent le dos au réel est complètement faux.
Mercredi, la sexualité des personnes âgées, avec Gérard Ribes et Philippe Bruno.
Par rapport à la jeunesse du corps féminin, alors là je voudrais pas faire de généralité, mais on peut dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui se rassurent aussi par ça. Il se rassure parce que il reste dans une position, on va dire un peu de mâle dominant,
ouais,
de celui qui peut encore conquérir. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, je vais parler un peu de physiologie et d'anatomie.
Ouais.
Mais un vagin de 40 ans n'est pas le même qu'un vagin de 80 ans. Et il se trouve que le vagin participe aussi à l'érection des hommes, puisqu'il y a une forme de constriction autour du pénis. Donc les hommes se sentent plus bandants, un, parce que leur désir est plus important, parce que ce que je l'ai dit juste avant, dans leur image d'eux-mêmes, et puis physiologiquement. Donc il y a quelque chose qui va se renforcer autour de ça. Mais bon, il ne faut pas considérer quand même que la plupart des hommes sont intéressés par les générations d'avant. On pourrait dire deux choses différentes. Il y a toute la dimension relationnelle de la sexualité, qui va être une dimension qui va se situer dans une tranche d'âge, on va dire, dans une forme de cohérence, et qui va créer du lien. Et puis, il y a toute cette sexualité qui est plus une sexualité où on va tenter de se... qu'on va tenter comme moyen de continuer à se sentir un homme ou une femme en tant qu'individu. Donc, il y a vraiment ce côté, un, relationnel, deux, individuel. Je ne sais pas si j'ai été clair.
Ah ouais, vous l'avez été, Gérard Ribes. Philippe Bruno, pour compléter.
Une réaction toujours par rapport à ce témoignage qui est intéressant. C'est vrai que beaucoup de femmes peuvent être choquées, hein, dans les relations hétérosexuelles. Des femmes peuvent être choquées par le fait que des hommes de leur âge désirent des femmes plus jeunes. Il est vrai aussi qu'il faut passer un message aux femmes et qu'elles sachent qu'il y a quelque chose de l'ordre du physiologique, que les hommes au fil des ans nécessitent plus de stimulation.
C'est-à-dire
qu'à 20 ans, un homme, allez, on parle de façon triviale, bande facilement, à 30 aussi, à 40, à 50, il faut plus de stimulation. Et souvent, les femmes qui n'ont pas appris à plus stimuler se trouvent désarmées. Je crois qu'il faut apprendre qu'on est tous inégaux avec l'âge.
Jeudi, le retour des odeurs corporelles avec Delphine de Swart, Elisabeth de Feydeau et Roland Salès.
Bon, alors il y a aussi un autre phénomène aujourd'hui qui est plutôt nord-américain et nord-européen, qui est le phénomène des unwashed, justement, qui ce sont des personnes qui ont abandonné tout produit détergent à base de parfum,
mm-hmm,
et voire même tout produit détergent, qui préconisent de se laver à base d'eau pour justement éviter toute perturbation, tout risque d'allergie ou même de rash.
Ouais. Qu'est-ce que ça donne alors?
Eh bien, en raison de notre mode de vie qui est de plus en plus sédentaire, de la climatisation partout, c'est leur argument. Ils disent qu'on n'a pas besoin de se laver quotidiennement, les enfants, on n'a pas besoin de les laver quotidiennement.
Oui.
Et ça donne que c'est des gens qui ne sentent pas...
Toujours très bon.
Oui.
Oui, voilà.
Bon, Elisabeth de Feydeau, ce mouvement est vraiment massif aujourd'hui ou pas ?
Oh non, c'est pas massif. En France, on en a quelques-uns aussi. Mm-hmm. C'est vrai que ça sent. Voilà. Donc pour moi, c'est un retour dans le passé. Ça rappelle des anciens souvenirs. Maintenant,
C'est la peau qui s'exprime vraiment. Au
absolument.
Fond, hein. C'est la nature même de l'homme et
ça,
de la femme.
Ça c'est intéressant. Je trouve cette idée de se réapproprier son odeur au sens de la connaissance en fait de son odeur propre, puisque justement au 19e, on apprenait encore aux futurs médecins la science du flair, donc à reconnaître les maladies d'après leurs odeurs. Et les femmes même également, c'était parmi les méthodes contraceptives, c'était aussi d'apprendre à reconnaître leurs odeurs pour savoir à peu près où se situer les période propice ou non.
Roland Salès.
L'odeur corporelle est un indice, honnête de l'état de la personne. Ça indique son sexe, ça indique son état reproducteur, ça indique si elle est malade ou pas.
Mm-hmm.
Donc le diagnostic olfactif qu'on a un petit peu oublié, par exemple dans notre laboratoire, on essaye de le réhabiliter avec des nouvelles machines qu'on appelle nébio-électroniques, mais le diagnostic olfactif n'est pas si mauvais que ça.
Et dans quel but alors vous développez ces machines?
En particulier pour le diagnostic médical, parce que vraisemblablement toutes les maladies ont un profil olfactif spécifique, mm-hmm, mais aussi pour la surveillance environnementale, la détection d'explosifs ou d'armes.
Delphine de Swart,
c'est aussi très important. C'est très important aussi de s'exprimer, d'exprimer sa peau et ses vraies odeurs dans un rapport amoureux. Je citerai le Napoléon et le fameux ne te lave pas, j'arrive et dans 8 jours je suis là. C'est... Ouais. Non, mais c'est aussi
ça, ça c'est dit du fétichisme. Que... Oui. C'est du fétichisme.
Mais oui, c'est du... oui, mais c'est aussi un rapport. C'est comme ça qu'on tombe amoureux aussi. C'est pas que dans le, c'est pas que dans le parfum. C'est aussi dans ce qu'il y a sous le parfum.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.